L'Institut Pasteur présente le think tank de la philanthropie.
Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Roude-Bézieux. Vous êtes connue pour vos engagements de longue date au service de l'intérêt général. Vous avez notamment créé avec votre mari Geoffroy Roude-Bézieux la fondation Araoc en 2005. Vous êtes aujourd'hui présidente de la fondation de la mer, mais aussi de l'association Un Esprit de Famille qui regroupe des personnes animant un fonds de dotation ou une fondation d'initiative familiale. Nous sommes donc heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur les enjeux de la philanthropie familiale. Bonjour Sabine Roude-Bézieux.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'a-t-elle de particulier cette philanthropie familiale ?
Alors, permettez-moi d'élargir le débat à la philanthropie familiale et privée, c'est-à-dire à l'initiative de personnes privées qui mettent au service de l'intérêt général leur patrimoine ou leurs revenus de façon pérenne. Cette philanthropie privée et familiale a un certain nombre de particularités. La première, c'est qu'elle est professionnelle. On a souvent tendance à dire que les personnes physiques ou les familles ont une petite philanthropie à la papa ou dans leur cuisine. Notre expérience depuis une dizaine d'années est tout à fait l'inverse. Les personnes qui créent des structures philanthropiques, que ce soit des fondations ou des fonds de dotation, sont issues du monde de l'entreprise et souhaitent, par la création d'une structure, avoir une approche professionnelle dans la gestion de leur philanthropie, comme ils ont une approche professionnelle dans la gestion de leurs activités business. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une philanthropie sans contrepartie. Les philanthropes n'attendent aucun bénéfice des soutiens et des subventions qu'ils versent à des associations ou à des projets d'intérêt général. La troisième caractéristique, c'est que c'est une philanthropie engagée. Les fondateurs et les membres d'Un Esprit de Famille s'engagent souvent, voire quasi systématiquement, dans les associations et les projets qu'ils soutiennent, en siégeant dans les conseils d'administration, en participant aux actions des associations. C'est aussi une philanthropie innovante, puisque les fondateurs ne doivent rendre des comptes finalement qu'à l'État, au nom de la mission d'intérêt général, mais peuvent prendre des risques que d'autres financeurs, comme par exemple les entreprises, ne peuvent pas prendre. Tout simplement parce qu'ils sont libres, c'est leur patrimoine ou leur revenu qu'ils décident d'investir. Et donc ils peuvent financer des projets pilotes et expérimentaux, ils peuvent se tromper, ils peuvent accompagner des associations dans leurs essais de modèles associatifs. Ensuite, je pense que la philanthropie privée et familiale est une philanthropie de terrain très opérationnelle et une philanthropie de proximité. Nos membres sont issus de territoires aux quatre coins de la France et vont vouloir soutenir des associations ou des actions proches de leur terre d'origine. Et puis, dernier point, c'est une philanthropie de long terme. Et c'est ce qui fait pour moi la caractéristique de la philanthropie à la française que nous souhaitons ardemment. Elle s'inscrit sur au moins une génération, voire deux, voire trois générations, et permet de s'adresser à des sujets qui sont des sujets complexes et de le penser de façon assez systémique.
Alors, on compte aujourd'hui un peu plus de 5000 fondations et fonds de dotation en France. C'est un chiffre qui a fortement progressé ces dernières années, principalement dopé par la création des fonds de dotation il y a 10 ans. Mais c'est un chiffre qui reste assez faible comparativement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la Suisse ou bien d'autres. Comment peut-on encourager la grande philanthropie en France ?
Alors on peut effectivement regretter que ce chiffre soit faible, mais on peut aussi se réjouir que cette expérimentation de Christine Lagarde il y a 10 ans qui s'appelle le fonds de dotation ait obtenu 50% de parts de marché ou peut-être dit autrement, ait permis de doubler le nombre de fondations en 10 ans. Et donc cette expérimentation du fonds de dotation, pour moi, est le signe qu'il existe un terreau philanthropique dans notre pays. D'ailleurs, c'est quasiment miraculeux quand on connaît le taux de prélèvement social et obligatoire qui pèse sur les personnes susceptibles de créer des fondations. Donc ce terreau philanthropique existe et les fonds de dotation, le succès des fonds de dotation en est le bon exemple. Ceci dit, nous sommes en deçà des États-Unis certainement, mais de l'Angleterre, de l'Allemagne ou de la Suisse, vous l'avez souligné. Et il nous semble, au sein d'Un Esprit de Famille, que pour développer et pour encourager davantage la philanthropie familiale, la dynamique de simplification et de rénovation de l'environnement juridique des fondations doit aller plus loin. En particulier, ce fonds de dotation qui était expérimental doit aujourd'hui se transformer en fondation. On a 8 ou 9 statuts de fondation, plus les fonds de dotation. On a un système extrêmement compliqué. Les fondations reconnues d'utilité publique ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que celles qui existent fonctionnent, mais on voit bien que dans les 10 dernières années, quasiment aucune ou quelques dizaines ont été créées. Et donc c'est le moment aujourd'hui de repenser le système des fondations en France, de les simplifier et d'imaginer un autre élan pour les fondations.
Alors, justement, dans cet élan, on sait que les fondations familiales ne souhaitent pas de création de statut particulier, mais une réflexion est ouverte depuis quelques mois avec Gabriel Attal pour labelliser les fondations familiales. Qu'apporterait un tel label ?
En effet, nous ne souhaitons pas ajouter un modèle de fondation de plus, parce que nos fondations familiales et privées, finalement, rentrent dans tous les systèmes juridiques qui existent. Nous avons des FRUP, fondations reconnues d'utilité publique, des fondations sous égide, des fonds de dotation et même quelques associations familiales. Ce qui nous rassemble, ce sont les caractéristiques que j'ai évoquées au début de cet entretien. Et finalement, nous souhaitons pouvoir les mettre en valeur en les labellisant. Ce label permettrait de préciser les contraintes que s'imposent les fondations familiales et privées à elles-mêmes, c'est-à-dire des contraintes de professionnalisation, des contraintes de gouvernance, des contraintes de mesure d'impact et des contraintes de long terme. Et l'ensemble de ces contraintes que nous nous imposons à nous-mêmes, pour moi, mérite d'être communiquées, labellisées, qui permettrait de faire reconnaître les fondations familiales et en tout cas l'action des privés et des familles dans l'intérêt général et de créer un cadre de référence sur la manière de gérer une telle philanthropie privée et familiale.
Et que révèlent selon vous les polémiques liées à la collecte exceptionnelle pour Notre-Dame de Paris il y a quelques semaines ? Il semble qu'il y ait quand même un vrai enjeu de pédagogie autour de cette grande philanthropie.
C'est effectivement le bon terme, le mot pédagogie. Les Français, que ce soit le grand public, mais également les politiques, les journalistes, les professionnels du droit, avocats, notaires, qui peuvent conseiller des familles, ne connaissent pas grand-chose, pour rester poli, aux enjeux de la philanthropie de grande taille. Et je suis toujours surprise quand on utilise le terme de niche fiscale, par exemple, pour parler de philanthropie. On explique que l'État finance 66% par la réduction d'impôts des dons des personnes physiques. Pour moi, c'est l'inverse. L'État, quand il donne ces 66%, finalement, il suscite de la générosité de personnes privées à hauteur de 33% ou à hauteur, quand il donne 60%, de 40% pour les entreprises. Donc d'une certaine manière, on pourrait raisonner à l'envers, c'est-à-dire de se dire que c'est le meilleur investissement de l'État, puisque quand il met 66% sur la table ou 66 euros sur la table, le particulier va rajouter les 34 qui, de façon volontaire, va rajouter de 34 euros à l'intérêt général. Donc si vous voulez, c'est pour moi un très bon investissement de l'État qui, pour l'intérêt général, a trouvé un mécanisme pour faire davantage payer ceux qui en ont les moyens.
Merci Sabine Roth-Bézieux.